Bonjour à toutes et à tous. Chaque mois, depuis la naissance de notre média, on profite des masterclass pour inviter un confrère ou une consoeur pour discuter de sa carrière, de son parcours, de son rapport au journalisme. Les masterclass sont désormais disponibles en podcast. Faites-vous un café, attrapez une madeleine, c'est parti pour la masterclass de Juliette Fievet. Donc voilà, Juliette, je te présente quand même rapidement. Enfin, je crois qu'on ne te présente plus, mais quand même. Tu es donc journaliste, animatrice. Tu as travaillé avec des artistes internationaux comme Sean Paul, Brick & Lace ou encore Papa Wemba. En France, on peut citer 113, NTM et IAM. Tu étais manager de Kerry James. Et depuis 2019, tu présentes ton émission sur France 24 et RFI, Légendes urbaines. Et donc, on va revenir sur tout ça. Mais...
Je fais une petite pause. Je n'ai pas travaillé avec NTM et IAM. J'ai travaillé sur les concerts avec eux, mais on en parlera après. Je travaille avec d'autres personnes dans le rap game.
On va revenir dessus, de toute façon. Et donc, on va commencer par le début, finalement. Est-ce que tu peux nous raconter, finalement, tes débuts dans la vie? Je crois que ça se passe à Lille, à 15 km de Lille, très exactement, c'est ça?
Fournanwep, village légendaire, où il y a plus de vaches que d'habitants. Déjà, quand Fournanwep, c'est déjà un programme. Parce que c'est ça, l'idée, c'est de vous parler effectivement de mon parcours professionnel, mais c'est aussi, c'est surtout humain en fait. Moi, j'ai appris il n'y a pas longtemps, j'ai appris quand j'avais 30 ans, que j'étais née finalement à Paris et pas à Lille. Parce qu'en fait, j'ai été adoptée, j'ai été abandonnée à l'âge de 2 mois et adoptée à l'âge de 2 ans. Je l'ai toujours su, hein, parce que ma mère était blonde aux yeux verts, elle l'est toujours d'ailleurs, et donc c'était un peu une évidence, ça n'a jamais été un sujet. Moi, j'ai toujours estimé que j'avais beaucoup, beaucoup de chance. Parce qu'il y a plein de gens qui ont leur géniteur et génitrice, et c'est pas toujours la fête. Et puis il y a aussi plein d'enfants qui ont été abandonnés, qui n'ont pas forcément la chance d'avoir été adoptés. Mais c'est un début de vie qui est fondamental, en fait, qui, à mon sens, sans rentrer dans mon autopsychothérapie, a déterminé beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, en effet... je suis née à Paris sous le nom de Yarda Djeo. J'ai découvert par la suite que c'était un prénom tchadien. Je suis a priori d'origine du Tchad et de l'Italie, mais dans l'absolu, j'en ai aucune idée. En fait, j'aime assez l'idée aujourd'hui de ne pas savoir d'où je viens. Mais sur mes papiers, c'est écrit Juliette Fievet, née à Lille. Donc en gros, je peux faire des bracos, double personnalité.
C'est pratique.
On sait jamais. Voilà. Bon, en même temps, je ne me poucave, donc c'est mort. Mais... Et donc, effectivement, adopté dans un village Fournanwep, plus de vaches que d'habitants.
Le village, il s'appelle comment?
Fournanwep.
Ah, pardon.
Ouais, okay. Ouais, Fournanwep, faut imprimer. Ouais, c'est Fournanwep, c'est 1000 habitants, parents entrepreneurs. Ma mère était coiffeuse, mon père géomètre. Ils ont décidé de monter une société dans les travaux publics, donc classe moyenne, mais des charbonneurs. Des ch'tis, quoi. Mais des ch'tis au sens très noble du terme. Je trouve que la télé-réalité ne nous rend pas hommage et que l'accent force des traits, mais j'aime cette région qui me tient vraiment à cœur. Je suis une vraie ch'tis, en fait, avec ces valeurs-là. On est très proche des Belges, donc je grandis aussi vraiment dans ce truc-là. Donc voilà d'où je viens à la base. Moi, je suis, voilà, et je me mets à écouter du rap, on en parlera, mais je suis un peu Camini, en fait, c'est pour ça que je m'identifie beaucoup en lui. Moi, j'étais en mode fight the power au milieu des vaches, quand même, c'était folklorique, mais c'est vrai.
Ok, du coup, si on remonte un peu le fil, finalement, quel enfant t'étais, enfant, que ce soit scolairement, est-ce que déjà, tu avais une idée du métier que tu voulais faire, par exemple? Non, pas trop?
Moi, j'étais une enfant agitée, pleine d'amour, je voulais embrasser tout le monde, etc., et en même temps, j'étais... toujours incomprise, c'est-à-dire que j'ai toujours eu ce syndrome, je pense que beaucoup d'entre vous, toutes et tous, a déjà été traversé par ce sentiment de se dire « Waouh, je ne sais pas ce que je fais ici, mais tu n'as pas le vocabulaire à la hauteur de tes pensées. » J'ai toujours été en décalage, en fait. Et d'autant plus, en grandissant dans une famille blanche, où en fait, finalement... on parle pas. Moi, j'ai pas une éducation. Je savais pas qui était Lumumba, je savais pas qui était Sankara, je ne savais pas qui était Malcolm X. Moi, je sais qui est Patrick Sébastien, la farandole. Enfin voilà, et je tiens quoi. Et je suis. Mais c'est un vrai truc en moi et c'est magnifique. Mais c'est vrai que j'ai grandi dans un truc totalement décalé et c'est important de le dire parce que beaucoup de gens pensent que je viens du 9-3, je grandis dans la street. Bah, pas du tout en fait. Bon, comme dirait un de mes potes, Souleymane Bay, qui est un grand boxeur, il m'a dit, toi, t'es complètement taré, en fait. Toi, t'étais dans le village des bisounours, au max, dans une maison à la campagne, et t'as décidé de te mettre dans la hesse gratuit. T'as pas grandi dans, juste par rapport au rap. Mais effectivement, mon enfance était très cool, mais très vite, à l'adolescence, il n'y a pas de sujet. Moi, j'ai une famille qui n'est pas raciste, donc ça ne parle pas de couleur, de trucs, c'est un non-sujet. Mais quand tu sors et quand tu vas à l'école ou quand tu te fais insulter de sa bougnoule ou sale arabe ou sale négresse, ça dépend de mon taux de mélanine et de la saison, là, tu rentres chez toi et tu es face à des gens qui sont cultivés, qui sont des gens intelligents, mais qui sont des charbonneurs. Mais on est en 1985 88, 90. Et on ne parle pas de tous ces sujets. Donc moi, je suis face à des gens qui ne comprennent même pas, parce que quand les gens ne sont pas racistes, ça ne leur vient même pas à l'idée que ça puisse arriver en fait de cette façon, particulièrement en province. Ils n'étaient pas dans ces sujets sociétaux. Et là vient un vrai décalage, en fait. Parce que je vis des dingueries, je suis plutôt... Je parle fort, j'essaie de bien travailler à l'école... Ok, super, mais je suis dans une école privée qui s'appelle Sainte-Marie-Beaucamp. C'est très cool. Je peux remercier mes parents de m'avoir mis dans une école très rigoureuse, etc. Mais pour vous donner un exemple, moi, j'ai le souvenir, je devais avoir 10 piges. Je suis allé voir le film Christophe Colomb, interprété par Depardieu à l'époque. Un héros, d'après mes profs. On parle du commerce triangulaire, de l'impérialisme français, tout ça. Et à un moment donné, j'étais un seul Renoir hein, dans l'école. Et je me souviens, hein, moi j'avais une prof, j'étais. Ouais, je devais être en quatrième ou troisième. Je lui dis, on parle quand de l'esclavage? Et vrai, vrai. Hein. La prof me regarde, me dit, Mademoiselle Fievé, ce chapitre ne regarde que vous. Alors. ouais, grand moment, ça n'existerait plus ça. Ce chapitre ne regarde que vous. Donc, vous connaissez le discours. Nous sommes déjà en retard sur la table des matières, sur le programme. On verra si en fin d'année on pourra. Voilà. Et pour vous pousser le truc plus loin, c'est-à-dire que moi, quand je dis ça à mes parents, ils sont là, ouais, super, bon, pff, ouais, c'est un non-sujet. En troisième, donc j'ai 14 ans, je deviens délégué des délégués. OK ? Il y a des délégués, il y a 10 classes d'élèves de troisième. Et donc, je suis délégué de ma classe. Et en plus, au max, je suis délégué des délégués. Donc, tu vois ?
Première ministre de ton école.
Ah ouais, je suis au max. Non, vraiment. Puis en plus, vous voyez comme l'éducation civique, on te fait une boîte de chaussures pour faire l'urne, tu mets un rideau de douche pour faire l'isoloir, machin, c'est hyper important. Et en fait, je suis élu délégué des délégués de 3e de Sainte-Marie-Beaucamp, je suis hyper fier, je rentre chez moi, super, ok. Le lendemain, je suis convoqué à 8h par le prof principal, proviseur, trois autres profs, tout ça, en me disant, Mademoiselle Fievé, vous êtes déboutée. Non, réel. Et moi qui avais plutôt une grande bouche, là j'étais là genre j'ai des adultes devant moi, je comprends pas, je sais même pas ce que ça veut dire être débouté, je comprends juste que je suis plus délégué des délégués en fait. Et je leur demande pourquoi et ils me disent parce que vous n'êtes pas symbolique des élèves de Sainte-Marie-Beaucamp. Ça ne pourrait pas exister aujourd'hui en 2024 en fait, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça, il y a plein de trucs. Je suis dubitative, mais j'ai peur, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi répondre et je ne peux dire que ok. Je comprends évidemment avec le temps que sont des écoles, ces écoles privées sont aussi financées par des grandes familles, il y a des dons, il y a des trucs à l'américaine. Et qu'à un moment donné, moi, la prolo, qui en plus pas tout à fait blanche, c'était compliqué. Mais moi, je rentre chez moi, je suis dans un contexte où mes parents sont extraordinaires, sont des gens vraiment formidables, mais qui ne sont encore pas une fois. J'ai été élevé à la dure. Donc quand tu rentres et que tu dis, hey, je suis débouté, ils disent, bah, c'est à cause de toi. Première réflexion des parents, c'est à cause de toi, tu te la ramènes, tu dis, bah, justement, je me la ramène, c'est le principe du délégué. Et donc j'ai subi un tas d'injustices, des petits trucs. C'est anodin, c'est insipide en fait, a priori. Mais en fait, ça m'a jeté tout droit dans les bras du rap. Parce que finalement, je trouvais des gens qui disaient tout haut ce que moi, je pensais tout bas. J'ai toujours eu une aversion pour l'injustice et je suis né comme ça. Mais quand t'es petit, t'as 15 ans, 14 ans, t'as pas le vocabulaire à la hauteur de tes pensées. Donc t'es face à des grands, tu t'insurges, tu gueules, t'as pas de schéma de pensée, t'es pas construit dans ton truc. Et c'est vrai que j'ai trouvé à travers le rap ce truc. Donc, je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'ai eu mon bac, ok, STT, rien de bien brillant. J'ai toujours essayé de faire de mon mieux, mais j'étais pas une élève brillante. J'avais 2 en maths et 13 en philosophie, donc hyper hyper contente, tu vois. Mais c'est. Et j'ai fait un 2 mois de bac de BTS force de vente, parce que c'était le truc, c'est genre ah t'as du bagou. Tu peux devenir chef de rayon chez Auchan. Et très bien, pourquoi pas en fait. Donc j'y suis allée, mais sauf qu'encore une fois, je me retrouve confrontée à un truc, c'est que première sortie, tu sais, première mise en pratique des leçons qu'on nous enseigne en classe, vendre des porte-clés à l'effigie de Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Donc on s'endimanche, on s'habille en VRP, on va dans les rues de Lille le lundi après-midi. Évidemment, pour vendre des porte-clés éclatés au sol, à qui tu vends des porte-clés éclatés au sol quand t'as 18 ans ? Aux mamies, aux personnes plus âgées qui ont de l'empathie, etc. Moi, je sais que j'ai de la tchatche de ouf. Sauf qu'en fait, je suis celle qui a vendu le moins de porte-clés dans ma classe. Parce qu'en fait, quand je vais voir une mamie, je dis « Eh, bonjour !» Elle me fait « Non !» Tu vois, enfin, limite « Non !» J'ai juste dit « Bonjour !» T'as vu ? Et les gens qui étaient un peu pas super éloquents, finalement, ils avaient fini par vendre plus, mais ça se jouait à une apparence physique. Je savais que j'étais pas à ma place. J'étais dans mon truc, j'écoutais du peu rap, etc. Encore une fois, écouter du rap quand t'es à Lille ou quand t'es à Fournanweb, c'est pas écouter du rap en 95-96 en étant en banlieue parisienne, en fait, ou à Paris, ou à Marseille même. T'es vachement plus isolé. Mais c'est ma passion, c'est
donc,
mon truc.
Attends, juste là, t'as 18 ans.
Ouais.
Ok.
Ouais. Et en fait, un jour, je suis avec Zina et Patty, deux amis qui me sont très chers. Cette histoire, elle est, enfin, je l'ai racontée 100 fois, donc je vais la faire courte, mais c'est vrai que, en fait, je regardais Rapline sur M6. Je vous parle du Moyen-Âge. Hein. Est-ce que quelqu'un connaît Rapline sur M6 et Olivier Cachin ? Ok, on est quatre à venir du Moyen-Âge, super. Au maximum, tu connais mon frérot. Je suis quand même étonnée. Et merci à mes amis qui connaissent mon histoire par cœur et qui vont se farcir des choses que vous savez déjà quand même. Ça, c'est de l'amour. Merci, merci. Mais on veut aller voir les Fugees. Et à l'époque, c'est voilà l'époque de Fuji, là, c'était un raz-de-marée mondial. Ils passent au Zénith de Lille. On n'a pas l'argent pour acheter les billets de concert. On se dit naïvement, tiens, si on allait devant le Zénith de Lille avant, début d'après-midi, pour avoir des places moins chères. Ce qui est complètement con, parce que finalement, quand tu achètes à des revendeurs, tu les achètes plus cher en réalité, dans la vraie vie. Mais on ne le savait pas. Et finalement, nous, on est assis sur un banc, on attend, on galère, il n'y a personne. Et vrai, on voit Wyclef passer devant nous. Science-fiction. Et mais en même temps, Wyclef, c'est un punk, c'est un haïtien. Le mec, il se balade, il avait dû. Voilà, il voulait faire le tour, prendre l'air. Et moi, je maîtrisais l'anglais. Je parlais bien l'anglais. Grâce à Snoop Doggy Dogg.
Puis t'as dit tout à l'heure les maths, pas trop, mais.
Ouais. Puis l'anglais, tu vois ce que je veux dire. J'écoutais NWA, alors mon anglais était, tu vois, très cassos en fait, finalement, t'en rends compte après, mais c'est les rappeurs Kenry qui m'ont appris mon anglais, en plus, en tout cas, qui m'ont aidé à le pratiquer. Et en fait, ils nous demandent l'éloge du Zénith. On sait pas du tout où c'est, mais on perd pas le. On saisit l'occasion en disant, of course, on sait très bien où se trouve l'éloge du Zénith. On t'indique. Et on lui indique les loges. Et il dit, mais vous avez des billets, des trucs, on dit, on n'a pas, et il nous fait rentrer. Et en plus, c'est une relation hyper saine, je tiens à préciser ça, parce que nous, on est des gamines de 18 piges. Tu pourrais dire, bon, alors nous, on pourrait être starfuckeuse, et puis lui, ça pourrait être un vieux sadique qui veut serrer des petites, mais c'était pas du tout le truc. Wyclef, c'est vraiment un mec super open, etc. Il nous fait rentrer. Et là, je tombe sur Olivier Cachin. Déjà, moi, j'ai l'impression de voir Dieu, en fait, Olivier Cachin. C'est-à-dire, je suis plus contente de voir Olivier Cachin que Laurie Neal. Je me rends compte de la disproportion des années plus tard. Mais c'est quand même son émission qui a semé ma graine. Et finalement, on s'est retrouvés en backstage. On a assisté à la construction du concert, au travail des ingé-sons et des régisseurs. Encore une fois, big up à Benoît, du travail de l'ombre. Et je suis rentrée, je suis allée voir mes parents et je leur ai dit « Je veux travailler dans la musique, c'est ça mon job, c'est ça ma vie. Je ne sais pas ce que je veux faire, mais je veux être dans ce game. J'ai capté le truc, j'ai regardé, j'ai observé une journée. » Mon père m'a regardé, paix à son âme, et il m'a regardé et m'a dit « Eh ben, quelle bonne idée! Donc, en fait, t'arrêtes l'école, mais t'as trouvé un travail! Et j'ai dit, bah non, je vais chercher, mais je retourne plus là-bas, là, vendre des porte-clés, c'est mort. Et, mon père me dit, si tu arrêtes l'école, tu trouves un travail. Si tu n'as pas de travail, tu continues l'école. Mais si tu n'as ni l'un ni l'autre, tu restes pas à la maison, c'est mort. Tu te lèves pas à midi, c'est pas la fête au village. Et en fait, je pense qu'il dit ça pour me faire peur. Sauf que moi, je leur dis, ok, je m'arrache, je reviendrai quand j'aurai un travail. Donc évidemment, catastrophe, mais bon, je vais vivre chez un pote à Lille. J'appelle ma mère 12 fois par jour pour lui dire que je suis en vie et que tout va bien. Je dansais à l'époque donc j'ai fait des petits cours de danse par-ci, par-là. Et après, j'ai eu la chance d'être embauchée dans une salle de concert qui s'appelle l'Aéronef. Mais ça, c'est, et j'avais 18 ans et demi. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé, en fait.
C'est comme ça que ça a commencé. Donc, 18 ans et demi, tu trouves un travail, finalement, dans ce domaine-là, à Lille. Et après, je crois que très jeune, tu viens à Paris. Tu descends à Paris.
En fait, à l'aéronef, on m'embauche. Si, si, c'est complètement ça. On m'embauche pour travailler sur la communication d'un festival qui s'appelait Pas de Quartier. Gros festival hip-hop, plus gros festival hip-hop d'Europe. On a reçu tout le rap game français de l'époque. Donc là, tu parlais d'IAM, d'NTM. C'est peut-être pour ça que tu as fait la connexion, parce qu'on les a fait en concert, évidemment. Raga Sonic, La Clica, Mafia Quinfri, etc. Mais on a aussi fait Farside, Beat Nuts, le Wu-Tang. J'ai eu la chance de voir Busta, pas Busta Rhyme, n'importe quoi, de voir Old Dirty Bastard en vrai, tu as la dinguerie d'Old Dirty Bastard, enfin des légendes. Et quand t'as 18 ans, t'es là genre waouh, mais moi j'étais déter, donc, et j'ai rencontré plein d'équipes. Et le 113 m'avait demandé à l'époque de faire de la promotion indépendante pour eux dans le nord de la France. C'était important de faire de la promotion en région, ce que j'avais fait pour leur album Ni Barreau, Ni Barrière, Ni Frontières. Et puis Doudou Masta, un coucou à Syrah qui est dans la salle. Doudou Masta, qui est une légende du rap, qui avait un groupe précurseur dans le rap français, Timide et Sans Complexe, qui est maintenant dans le cinéma, me propose de descendre sur Paris pour manager son collectif de rappeurs, singés, chanteurs, qui s'appelait Bougotop. Et donc, encore une fois, mon père décède entre-temps, extrêmement violemment et rapidement, et je dis à ma mère et à ma grand-mère... Je descends à Paris pour m'occuper de Bougotop. Donc le plan de carrière qui ne fait pas rêver les parents, qui les fait flipper total. Mais je crois que quand tu as une passion comme ça, j'ai passé ma vie jusqu'à aujourd'hui à sauter d'immeubles de 70 étages en fait. Et à prendre des risques, des dingueries. C'est pour ça que je refuse quand les gens me disent « t'as de la chance ». Je considère que j'ai de la chance en effet. On a tous de la chance ici parce qu'on n'est pas né au Yémen, on n'est pas né dans certains pays, on n'est pas à Goma en RDC. Et donc là, on a de la chance. Le matin, on se lève, on sait ce qu'on va manger, etc. Mais en réalité, tout ce que j'ai, je l'ai arraché avec les dents et j'ai fait que des dingueries, en fait. Mais c'est vrai que quand t'es plus jeune, tu te rends pas compte. T'es juste oh, Paris. Moi, j'arrivais à Châtelet, j'avais l'impression d'être à New York. Tiens.
Et du coup, j'arrive, c'est la première fois que tu viens à Paris.
Bah ouais. Je prends une gaou. Je suis là. Waouh, place carrée. Waouh, le McDo. Tu vois, waouh, waouh, les gens ont trop de flow. Mais je suis dans mon élément. Et là, je me dis, OK, et j'ai une espèce de petite solution de secours qui s'est avérée extrêmement foireuse pour dormir. En fait, j'avais prêté mon appartement. J'avais un appart à Lille, un petit appart. J'avais prêté mon appartement à la daronne d'un ami qui était au placard à Lille. Et elle avait un appartement à Porte de Vincennes. Et on devait faire un échange. Sauf qu'elle n'a pas kiffé. Bon, déjà, elle a oublié de me dire que... son frère de 45 ans était aussi dans l'appartement. Donc, quand je suis arrivée dans l'appart, c'était surprise. Très paro. Ouais. Et puis surtout, elle n'a pas kiffé Lille. Donc, elle est restée une semaine dans mon appartement et elle est revenue. Et je me suis retrouvée à dormir sur le canapé de la personne et à partir et à être probablement, je ne sais pas, pendant 6 mois à droite à gauche, en galère, à ne même parfois faire des nuits blanches parce que je ne savais pas où dormir. Et les Bougotop, par exemple, je pense à Doudou et à... C'est mes frérots, mais ils étaient jeunes aussi à l'époque. Et ils ne se rendaient pas forcément compte. Donc, il m'arrivait de dormir dans le studio d'enregistrement, etc., etc. Mais encore une fois, j'étais tellement passionnée. Je pense que tout passe quand tu sais que tu es exactement là où tu dois être. Que tu as un objectif, c'est d'en être, de construire, de faire des choses. Et quand tu es animé par une passion, je pense que tu peux tout endurer, en fait, ou beaucoup plus. Et puis, la jeunesse fait que tu... t'augmente ton degré d'inconscience et que tu ne te rends pas compte des risques que tu prends et des dingueries. Mais moi, ma maman avait déjà trop mal au cœur dû au fait... Il faut savoir, Lille-Paris, c'est 1 heure en TGV, c'est 200 kilomètres. Pour ma mère, j'étais partie vivre en Australie. On est d'accord. Et donc, je me suis dit, non, c'est pas grave. Oh, parce qu'il est hors de question de le dire à ma mère. Il est hors de question de faire flipper ma mère et ma grand-mère. Elles en ont déjà assez vu dans leur vie. Et on a déjà trop investi pour faire demi-tour.
Oui, et puis il y a ce truc aussi de... En fait, je sais que je suis là où je devrais être, comme tu le disais à l'instant. Il faut tenir. Mais du coup, très concrètement, tu arrives avec une espèce de promesse d'embauche, finalement. Enfin, promesse d'embauche, tout est
du
relatif.
Bendo,
mais,
du bendo,
en tout cas,
c'est
même... du boulot. Enfin,
oui, oui.
Tu arrives avec quelqu'un qui dit on va bosser.
Voilà. Ouais, on bosse.
On bosse.
Et on bosse sérieux.
On bosse sérieux. Mais du coup, tu apprends le boulot en le faisant. aussi.
Exactement.
Tout comme
c'est Raphaëliem que vous connaissez bien au Bondy Blog, qui dit qu'il
a eu en masterclass.
Exactement, qui dit qu'il a fait HEC, les hautes études du culot, autodidacte, direct. C'est-à-dire, il n'y a pas un métier que j'ai effectué dans ma vie pour lequel j'ai fait des études. Donc, t'apprends sur le tas avec ce syndrome de l'imposteur.
À part les porte-clés.
Comment ?
À part les porte-clés. T'es commencé.
Ah, porte-clés, je suis au max, mais t'as vu le résultat. Tu vois ? Fais une formation. D'ailleurs, il y a quelques porte-clés à la sortie tout à l'heure. Cam m'a ouvert un stand. Ouais, co-brandé Bondy Blog. N'importe quoi. Mais il y a un business. On a... Non, mais du coup, j'apprends sur le tas. Mais, alors, il y a deux trucs. On est en 97, 98. Quand t'es autodidacte, enfin, quand t'es une femme, t'as le syndrome de l'imposteur, hein, c'est de naissance, n'est-ce pas, mesdames ? Hein, ok. Et quand t'es autodidacte, t'as double syndrome de l'imposteur. Donc, en fait, tu travailles 100 fois plus. Tu fais, je suis dans un milieu qui est particulier, en fait. Mais il y a plein de choses dont je ne me rends pas compte, moi, à l'époque. C'est-à-dire que quand je regarde les choses avec du recul, je me dis, ah, peut-être que si j'avais été un cum, ça se serait peut-être passé différemment. Mais je ne me rendais pas compte de ça. J'étais gang, j'étais Kaira et j'avais faim, j'avais la dalle, j'étais électrique. Parce que ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'aujourd'hui, tu peux te lancer dans la musique, tu peux te lancer dans plein de trucs. Mais il y a une espèce de confort, quoi qu'il arrive, à savoir que tu as ta famille qui est là, en banlieue parisienne ou à Paris, et que tu as un appart, tu as un truc. Moi, j'étais toute seule sans filet. Et donc, du coup, ça te donne une dalle. En disant, de toute façon, je ne peux pas faire demi-tour. Mais j'ai appris énormément de choses. Et tu vois, les Bougotop, en l'occurrence, sont toujours mes amis pour la plupart. Aujourd'hui, on est extrêmement proches. De fil en aiguille, j'ai eu la chance de rencontrer Feu DJ Arafat, je ne savais pas son âme. Je pensais à lui, Harold Lion, grand monsieur de la musique, qui produisait entre autres Expression Directe, et je me suis retrouvée à manager Expression Directe, et qui s'est fait virer d'Universal Music, parce que en fait le rap game à l'époque, au Mac, je crois, t'es témoin de ça. Aujourd'hui, les gamins parlent de beaucoup de choses, c'est super, mais sont des narrateurs de choses qu'ils ne vivent pas. En revanche, à mon époque, les mecs racontaient peu de choses, mais ils faisaient beaucoup de dingueries, en fait. Donc, on a perdu des gens. C'est-à-dire que dans la mafia Quinfri, souvent, on parle de Las Montana, de Mamad, des Intouchables, Road Lion qui s'est fait... assassiné par cette balle dans le corps. Ça, c'est la réalité dans laquelle je suis quand je suis à Paris. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs sont dans la street, dans la musique, mais ils sont sérieusement dans la street. Et c'est pas, je vais raconter mes histoires derrière un micro pour... Encore une fois, quand t'es jeune, tu te rends pas compte, en fait, des dingueries dans lesquelles tu te retrouves. Et c'est vrai qu'il y a eu des incidents avec Expression Directe qui étaient chaud patate à l'époque. Et du coup, on se fait virer d'Universal. Et Weedy connaissait un grand monsieur qui a été l'un de mes mentors, Patrick Colleoni, qui était directeur artistique et label manager d'une maison de disques qui s'appelait Next Music. Et en fait, je trouve enfin, à 21 ans, un poste sérieux en CDD d'abord, puis en CDI de chef de projet chez Next Music dans une maison de disques. Donc c'est un peu comme si je sors de la street, j'ai fait mes classes dans la street pendant 2 ans en manageant des gens, abracadabra production, bout de ficelle, etc. Et puis là, d'un seul coup, je me retrouve dans The Office, quoi, en fait. Mais quel bonheur, tu vois, de se retrouver dans un truc cadré, parce que ça faisait quand même 3 ans que j'étais, je sais pas, Mowgli l'enfant sauvage dans des trucs... Et voilà, ouais. Et c'est grâce à Express Dic que j'ai trouvé ce travail en maison de disque.
Donc le premier, finalement, travail où tu te retrouves avec un badge à l'entrée, enfin j'abuse un peu, mais le truc, ouais, voilà, très
fax,
carré.
Un fax, mon ami, qui c'est qui est un fax ici? Un fax.
Par exemple, ouais. Une connexion, j'allais dire Internet,
mais
toujours pas.
Un bureau, bref, ouais, et c'était dur Internet à l'époque. Hein.
Mais du coup, un premier job en bureau, Et là, tu dis, enfin, tu disais déjà que tu voulais faire ça, mais là, concrètement, qu'est-ce qui se passe dans ta tête?
Je me disais rien du tout, je savais même pas. Moi, c'est toujours ça, en fait. C'est-à-dire, ah, ok, manager. Ah, ok, chef de projet. Donc, c'est quoi? Ok. C'est un peu ce que je faisais déjà,
et donc,
si tu veux.
Chef de projet, concrètement, c'est quoi
chef
la différence?
Chef de projet, en fait, tu fais la coordination sur un album, un projet. Tu fais la coordination entre la promo, le marketing, l'argent dépensé, les tourneurs, le développement. C'est toi qui veille au grain du développement d'un artiste, tu vois. Mais comme j'étais en maison de disques indépendante, très vite, tu sais, contrairement aux majors qui divisent vachement, t'as chef de projet, t'as directeur de marketing, directeur promo, nous, on faisait un peu tout. Et c'est assez drôle parce que moi, j'étais dans le rap, j'arrive en mode rap game, etc. Et là, Patrick Coléoni, c'est la grande époque, je crois qu'on doit être en 2002-2003, grande époque du reggae, dancehall, tout ça. Et je dis, oh là là, moi, t'es déjà la Rastafari, c'est pas mon game, en fait. Tu vois, super Bob Marley, mais moi,
c'est pas mon projet.
Ah ouais? Elle me dit, bah ouais, mais sauf qu'en fait, c'est ça qui vend. On a trois labels, Greensleeve, Jetstar et VP Record. Je sais pas, est-ce que vous connaissez, il y a des gens qui connaissent un peu le reggae dancehall ici? Ouais, vite fait, hein. On est... Et en fait, c'est vrai que c'était un truc, que c'était une dinguerie. Parce que c'était l'époque où des Capleton, des Sizzla, des Bounty Killer, juste en France, avec une couve de sur un magazine reggae, on vendait 100 000 albums en physique, quoi. Et en fait, je me retrouve, moi, à découvrir ce reggae dancehall jamaïcain et à développer, et en France et en Europe, des artistes, les fils Marley, Kimani Marley, Damian Marley. Donc, je découvre un autre game encore. Et je suis, pendant 5-6 ans, vraiment dans le reggae dancehall. Pareil, à signer, tu parlais de Sean Paul. Première étape, d'ailleurs, au sens propre, comme au figuré, son premier album, Stage One, il était chez Next Music, on l'avait pour l'Europe, et il y avait Give Me The Light dedans, tu vois ce que je veux dire, qu'on a essayé de développer, mais qui m'a été refusé par certains médias, et qui a été accepté une fois que cet artiste était passé en major. Ça, c'est encore une autre histoire, mais j'ai appris beaucoup. Et puis à 22, 23, 24 ans, du coup, quand t'es chef de projet en maison de disques indépendante, tu voyages dans le monde entier. Parce que tu vas chercher des références d'albums ou d'artistes pour pouvoir les distribuer en France ou dans les pays francophones ou en Europe. Voilà, contrairement au major, quand t'es signé chez Sony aux États-Unis, t'arrives chez Sony en France, t'es en Sony au Japon. Quand t'es en maison de disques indépendante, tu peux, comme Believe aujourd'hui, tu peux être signé chez Believe en France et dans une autre maison de disques similaire aux États-Unis, en Amérique du Sud, etc. C'est un business qui est hyper intéressant parce que d'un seul coup, t'es ouvert sur le monde et en fait, tu passes ton temps au Midem à rencontrer des gens de tout horizon, toutes les maisons de disques indépendantes de partout. À 22, 23 ans, moi, j'étais au Midem. C'était le marché du disque, c'était assez incroyable. Tu te retrouvais à une table avec 10 personnes, un Polonais, un Allemand, un Japonais, un Anglais, un Brésilien. Tout le monde parlait anglais. T'avais l'impression que personne parlait la même langue. Avec les actions, les trucs, c'était une dinguerie. Et t'apprenais aussi à comprendre et à analyser les cultures de chacun. Et puis, j'ai beaucoup travaillé avec des artistes africains parce que c'était une énorme maison de disques pour l'Afrique. Donc, Papa Wemba, dont tu parlais, Taboulé Rochereau, Kofi Olomide, la grande époque de Kofi, à l'époque où il a fait son Bercy, premier artiste africain à faire un Bercy en France. Et puis, Magic System, premier Gaou. Je dis toujours qu'une victoire est à plusieurs parents, en fait, parce qu'on a vendu plus d'un million d'albums en physique de premier Gaou. Je me revois être arrivé avec ce titre en disant hey, « Eh, dans le bendo, ça marche, dans les salons de coiffure, ça marche. » Encore une fois, j'étais allé voir Skyrock, Laurent Bouno, il m'a dit « Ça ne marchera jamais, je passe pas ce genre de musique. » Il a eu une écreux là-dessus. Laurent, si tu me vois. Et
si tu m'entends, parce que
ouais.
En podcast, vraiment, en vidéo.
Ouais, comme... voilà, et peu importe en fait. 1 300 000 albums, pas mal. Et mais on était en grosse équipe pour développer, etc. Et c'est vrai que j'ai fait ça pendant jusqu'à l'âge de 26 ans. Et puis après la maison de disque, c'était déjà la crise du disque. La maison de disque avait été rachetée par des financiers qui voulaient faire 10 Magic System par an. C'était ça leur plan de carrière, alors qu'en fait, pour une maison de disque indépendante, ça n'existe pas. C'est déjà de l'ordre du miracle, l'histoire de Magic System. Et donc du coup, ouais, c'était un peu catastrophique la fin de cette maison de disque. Mais j'avais appris plein de trucs parce que j'étais devenue label manager, directrice artistique, tu vois, j'avais gravi les échelons.
Ok, donc 26 ans, ça se termine avec cette maison de disques. Qu'est-ce que tu fais et c'est quoi la suite?
Et grande expérience. Là, on est bon. Je monte une société.
Ah.
Non, parce que c'est important, l'idée de cette rencontre aujourd'hui, c'est pas de vous dire ouais, formidable. Ouais, il y a des trucs formidables, hein, mais sur mon parcours, il y a quand même des sacrés morceaux, des grandes, grandes loses. Et c'est ça aussi qui est important. Parce qu'en fait, on ne peut pas savoir ce en quoi on est bon, ce pourquoi nous sommes faits. Ce pourquoi nous sommes faits. Tant que t'as pas tenté, en fait. Et là, je me dis, je monte ma société.
À 26 ans.
À 26 ans. J'avais 2 en maths, je t'explique. Donc quand tu me vois devant l'expert comptable, j'ai l'impression de rentrer en CP. Je cale à rien ce qu'il me raconte. Je dois faire une déclaration de TVA, j'ai des montées d'angoisse. Tu vois, parce que c'est ça, monter une société. Ça s'appelait Influence Musique. Et je me dis, putain, on a eu le nez creux. Ça n'existait pas, les influenceurs. Il n'y avait même pas, tu vois, Internet, on en était à MySpace à l'époque. Donc voilà.
Donc, influenceuse, Startup Nation, t'étais en avance.
Tu vois ou pas? Sauf que je faisais pas de tuto make-up, t'as capté, j'étais jamais dans. Et en fait, on fait de la prod, de l'édition, du management, on développe des artistes internationaux, etc. On s'enflamme, on prend des employés, on a jusqu'à 9 salariés. Et là, c'est la merde en fait, parce que ça va, on rentre du chiffre, etc. Mais moi, je me rends compte que je peux manager des rapports, il y a pas de problème, t'as vu, il y a pas de souci. Mais moi, manager des employés, leur faire la liste sur ce qu'ils doivent faire le matin, faire rayer la liste le soir, et que je sais pas faire, en fait. Et puis, ça me gonfle. Viens me voir 10 fois, pose-moi 1000 questions si tu veux. Mais moi, je peux pas être derrière les gens, en fait. Je sais pas faire ça, en fait. Parce que déjà, je ne supporte pas qu'on me fasse ça. Moi, plus tu me laisses de la latitude, plus je vais avoir de la gratitude, et plus, en fait, je vais te prouver que tu as eu raison de me faire confiance. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être cadrés. Et je le comprends, en fait. Sauf que j'ai tellement pas ce mécanisme-là, qu'en fait, c'est Abracadabra Production, en fait. Je suis avec Doudou Masta, encore une fois, associé, et Boris, Abracadabra Production, parce qu'ils sont comme moi. Donc, c'est les boss les plus cassos de l'histoire de l'humanité des boss. Moi, j'ai des attachés de presse. Elles bégayent au téléphone. Oui, bonjour, on a un artiste. Tu voudrais bien faire un article? J'arrive, bon, ok, Charlotte, viens, on va déjeuner. Je saoulais au rosé mes employés pour qu'ils soient déter l'après-midi. Ça marchait. Bah bien sûr. T'as beaucoup moins peur avec 2-3 verres de rosé dans la tête. Après, ça dépotait les articles. Non, mais c'est vrai, hein. Au max, t'es témoin. C'est grave ce que je dis.
Non, mais tranquille. Attends, théâtre indépendant, média indépendant, dis tout ce qu'on veut.
C'est hyper vrai.
Après, c'est la réalité.
C'est la réalité. Mais du coup, tiens, t'es pas bon manager de trucs, de machin. Moi, la comptabilité, le truc, c'était catastrophique. Ça m'angoissait. Vraiment, c'est un truc... je confonds le chiffre d'affaires, le bénéfice. Moi, tu me mets 3 chiffres devant moi, chaîne du nez. Vraiment, c'est un truc... Donc, en fait, au bout de 3 ans, à zéro, pas de dette. On a payé l'URSSAF. On ne vous doit rien. OK. On a d'ailleurs beaucoup payé comparé à ce qu'on a gagné. Mais ça, c'est la France, encore une fois. Système français, hardcore, tu payes des impôts avant même d'avoir fait du chiffre d'affaires. Et on ne parle pas de bénéf. Tu es dans un game, tu payes des charges, tu dis waouh, waouh. Donc en fait, je paye pour travailler. C'est super hardcore l'entrepreneuriat en France. Il y a un vrai problème là-dessus, parce qu'il y a plein de gens qui ont envie d'entreprendre. Mais franchement, même si tu t'entoures bien de gestionnaires, etc., etc., putain, il faut avoir les reins solides en fait, parce que. Mais. Tu croules sous les charges, t'as des employés, tu croules sous les charges. Moi, je trouve ça inadmissible parce que ça n'encourage pas les gens, justement, à entreprendre et à... Mais du coup, j'ai appris ça. Donc, lose, mais source d'apprentissage. Je sais que je ne serai jamais expert comptable. Voilà. Longue vie, voilà. Enfin,
force à eux.
Force à eux.
Nous aussi, on a choisi les lettres par ici. Mais du coup, donc, cette boîte, ça dure 3 ans, c'est ça?
Ouais.
Et après, qu'est-ce qu'on fait?
Eh ben, entre-temps... il se passe plein de trucs. Entre temps, quand j'étais jeune et fraîche, j'étais archi fraîche quand j'étais petite. Sauf qu'en fait, moi, j'ai toujours été dans la peau de la petite grosse cul de bouteille. Il faut savoir que j'avais un à cet œil, ok. Donc en fait, j'avais un cache, ok, sur mon œil pendant 3 ans. Je le vivais bien en fait, en vrai.
En pirate.
Bah ouais, Capitaine Flamme.
Ça passe.
J'avais cul de bouteille. J'ai jamais été super fine, ok. Au contraire, on est dans une époque où justement les choses s'améliorent là-dessus. On a moins de jugement de valeur et mon Dieu, comme je suis heureuse qu'on juge moins et qu'on fasse plus doucement. Et puis ma mère, qui sait coiffer les cheveux afro, a eu la bonne idée en plus de me faire une frange, ok. le truc qui fait ça comme ça, ok ? Donc autant vous dire qu'en fait, moi, j'ai toujours été dans la peau de la petite que personne veut qu'elle a. Et donc, même quand j'ai été fraîche, quand j'étais plus jeune, je n'ai jamais eu... Moi, j'ai toujours été dans la peau de Mafalda, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai jamais eu ce truc-là. Mais bon, il s'avère qu'à l'époque, on m'avait proposé plein de fois de faire de la télé, de la radio, en me disant « Ouais, chante, t'as une voix !» J'aurais dit « Alors là, franchement... » même avec de l'autotune, ça va être compliqué, tu vois ce que je veux dire? Et puis, moi, j'ai jamais eu l'ego d'être connu, tu vois? Cool, mais si t'es connu, enfin, tu passes à la télé, c'est pour présenter des kilos de tomates, il y a des gens qui peuvent le faire bien mieux que moi. Donc, j'ai toujours refusé.
Jusqu'ici, ton job, c'est être vraiment dans l'ombre.
Ouais!
Enfin, moi, c'est ce que t'as fait, c'est ce qui te faisait kiffer.
Mon job à moi, moi, je ne suis qu'une caisse de résonance. Je ne suis qu'un vecteur. Mon avis, on s'en fout. Ce que je fais, on s'en fout. Il y a des gens qui font des choses formidables. Et étrangement, je dis ça, je dis rien, théorie du complot, c'est toujours les mêmes qu'on ne met pas en avant. Okay ? Et donc moi, je me suis mise en tête de mettre en avant et en lumière des gens formidables. Donc mon job, il n'est pas de m'auto-marketer, d'être devant, etc. Et peu importe la façon, en étant manager, en étant productrice, en étant éditrice, en étant directrice artistique, aujourd'hui journaliste, mon job à moi, c'est de mettre en lumière des gens qui méritent d'être mis en lumière. Et je sais que j'ai, grâce à mon histoire, parce que comme je ne sais pas d'où je viens, ou je sais maintenant, mais bon, je ne suis pas sûre, la réalité c'est que je suis toi, moi, Sarah. Je suis toi, 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 je suis toi. Ce discours qui dit ah, je suis une citoyenne du monde. Ok, mais la vérité, je suis une citoyenne du monde. C'est parce qu'il y a plein de gens éclatés au sol qui ont utilisé ça d'une façon biaisée qu'on finit par se dire c'est gnangnang. Mais moi, j'ai eu la chance de faire 10 fois le tour de la planète. Et en effet, il n'y a pas un endroit où je ne me suis pas identifiée, mais parce qu'en fait, je ne me positionne pas de telle façon face à toi. Parce qu'en fait, ça se trouve, je suis toi. Et donc, et parce que j'ai grandi comme ça. Tu vois ? Donc du coup, je sais que j'ai aussi ce langage universel qui fait que je peux parler autant à la street qu'à un président, un Cambodgien, qu'à un Brésilien. Et il entend ce que je dis. Ou en tout cas, il entend la façon dont je lui mets en avant des choses. Et ça, c'est important dans une vie. C'est d'avoir, de savoir en quoi on est bon, en quoi on n'est pas bon. Voilà. Et moi, je sais que ma voix, par exemple en radio, ou là, bonjour, tu as Juju Benton. Ça interpelle les gens. Injustement, même quand t'as une voix cassée, ça te donne du charisme. Super. Tu vois ? Non, mais c'est vrai. Et c'est pas juste. Quand tu te la ramènes, les gens s'arrêtent. Écoute, t'as plutôt intérêt à pas dire de conneries en revanche, parce qu'on va bien les entendre 10 fois plus. Tu vois ce que je veux dire ? Mais moi, j'ai conscience d'avoir des options. Notamment ma voix. Mais je ne voulais pas être en télé ou en radio de façon insipide. Et donc, quand je ferme influence, Claudie Sillard lui rachète Tropic FM et il me dit vas-y fais un programme, je te laisse faire tes classes en radio, je te laisse 30 minutes par semaine, tu crées un programme que j'ai appelé Strictly the Best humblement, et il m'a dit voilà tu te démerdes, en 30 minutes tu passes 3 titres et tu te démerdes pour écrire autour de ces 3 titres. L'idée c'est que ces titres doivent être des prétextes pour parler de politique, géopolitique, sujets sociétaux, humain, on fait pas des chroniques musique, tu te démerdes, t'écris et tu racontes des histoires. Pff, sans filet. Je crois que j'ai jamais eu mon cœur qui a battu autant derrière un micro.
La et ça commence
fois, j'ai
demain.
J'ai eu super peur. Ouais, c'est ça. Et je l'ai fait. Et finalement, contre toute attente, Sarah, les gens ont vraiment kiffé. Je l'ai rejoint sur RFI dans Couleur Tropicale en tant que chroniqueuse. Mais quand t'es chroniqueur, en fait, tu gagnes pas ta vie en réalité, tu vois. Et les Brick and Lace, à l'époque en fait, je représentais un monsieur qui s'appelle Will Smith, parce qu'il fallait bien se nourrir en fait et avoir au moins un truc, un minimum pour payer son loyer. Et Chris Smith, qui est un Jamaïcain qui a grandi au Canada, était le manager de Nelly Furtado. Est-ce que vous connaissez Nelly Furtado ? Ok. J'allais vous chanter une chanson, mais tant pis. Et en fait, Nelly, à l'époque, elle cartonne. Et il me dit, moi j'ai besoin de relais, les managers américains en fait ont eu l'intelligence de dire, ok, déjà quand on est sur le terrain, c'est délicat de gérer la stratégie et le développement d'un artiste, en maison de disque, enfin avec les relations des maisons de disque, etc. De, quand t'es à distance, avec le gap culturel, eh ben, c'est encore plus compliqué. Donc, il va mettre des relais management dans des pays hyper stratégiques. La France, tu sais que le monde francophone, tu cartonnes en France, tu cartonnes dans le monde francophone. Le Japon, l'Allemagne, etc. Et il me demande d'être son relais en France. Donc, je travaille un peu sur Nelly Furtado. Et puis, moi, j'ai un coup de cœur sur les Brick and Lace, les dessins jamaïcaines. Et en fait, on en fait un carton avec Love is Wicked. Et en fait, finalement, c'est ce qui me fait vivre. Je reprends aussi le management, le relais management de Sean Paul et Chaggy. Et c'est ça qui me permet de vivre et d'apprendre les chroniques en radio. Et puis, en parallèle, François me propose de faire des petites chroniques. Donc, au bout d'un moment, j'arrête le management. Enfin, j'arrête le management. Je le fais pendant 2 ans. Je participe à une émission qui s'appelle Le Labo avec Sébastien Follin. Ensuite, je rejoins Claudie dans le Claudie Show. Je fais du billet d'humeur. Et puis, à cette époque, mon frère de toujours, Kerry James, arrêtait avec son manager, se séparait de son manager, ou son manager s'en séparait, amicalement en plus, hein, ils sont très amis, et c'est un grand, grand monsieur qui s'appelle Stéphane Cacho. C'est à l'époque de Lettres à la République, et Kerry me propose de le manager. Et là, je me dis, waouh, moi, je voulais plus manager d'artistes, là. Cette histoire d'être vecteur à travers le journalisme, ça me plaît bien, parce que quand même, quand t'es manager, tu es assistante sociale, ok?
C'est ce que j'avais demandé un peu, c'est quoi? Parce qu'on voit dans l'idée ce qu'est un manager, mais il n'y a pas de feuille de route, il n'y a pas de journée type, j'imagine, mais si tu devais le définir un peu,
c'est quoi? Ta journée type, c'est tu vis plus pour ton artiste que pour toi si tu as un bon manager, en fait. La réalité, c'est que tu te bats pour ton artiste et tu prends un pourcentage dessus. Mais encore une fois, moi, je n'ai jamais été bonne en calcul. Hein. Je pense que j'aurais dû, si j'étais bonne, hein, j'aurais été millionnaire à l'heure qu'il est là, en fait, avec tous les bangers qu'on a signés, que j'ai machin, que j'ai développé. Mais bon, voilà.
On a
compris. C'est une vraie énergie, tu penses aux gens avant toi, donc tu te décentres complètement. Et en même temps, Kerry, c'était une proposition qui se refusait pas, parce que j'ai toujours voulu faire des choses qui ont du sens. Moi, je cherche pas le bling, la fame, le truc, le machin, même pas assez l'argent, pour être tout à fait honnête. Et Kerry, c'est l'époque de Lettres à la République. Et moi, je suis hyper honorée qu'ils me disent « Mais viens, vas-y, manage-moi. » Et du coup, on l'a tous compris, hein, je ne suis pas super bonne en administratif et calcul. Et donc, du coup, et puis je faisais des choses, des chroniques à côté, etc. Et ça me prenait beaucoup de temps. Je commençais à écrire, etc. On a appelé Marie Odiger, qui est une grande, grande dame de la musique. On s'est dit qu'on allait faire une team de management. Donc, Marie gérait les relations avec les maisons de disques, avec la SACEM, la SDRM et les comptables. Et moi, j'étais sur le rinté en train de... Voilà. On a fait un Bercy ensemble, la CES... le système des bourses d'études avec Kerry, on l'a monté ensemble. On a fait une tournée sur le continent africain. Jusqu'alors, c'est toujours mon ami, mon frère de toujours. Mon frère d'art, mais mon vrai frère, Kerry. Et donc, je l'ai managé pendant 3 ans. Je suis extrêmement fier de ça. Et j'ai continué à faire un peu mes chroniques comme ça, par-ci, par-là.
Donc, tu manages Kerry pendant 3 ans. Tu continues tes chroniques en parallèle? Tu dors jamais? Non.
J'ai pris 10 piges.
Ouais.
En
3 ans.
Ouais. Non, mais pour de vrai.
Mais c'est pas vrai en plus. Mais enfin.
Si, je te jure.
Ah ouais?
Ok. Il y a un bon ophtalmo. Mais en même temps, ces rides-là, tu vois, c'est quand t'es une femme, j'ai 45 ans, des fois je suis là, waouh, les gens ils m'appellent madame ou grand-mère ou tati, je suis là, ouh, mais moi j'ai 12 ans, là, Tim Peter Pan. Ça pique un peu de vieillir. Heureusement, Lucille, on a des solutions, on a trouvé des médecins extraordinaires. N'importe quoi. C'est vrai, on s'échange.
Et là, on repart en influence.
Non, je te jure, on
tout d'un coup, avec le code Juliette
30. Non, mais tu te vois, tu sors de ton corps, tu te vois en train de regarder des trucs de chirurgie esthétique, et là, tu dis, je vais très très mal. En fait, là, je. Et du coup, tu te dis, mais non, mais en fait, moi, série, je suis contente. Parce qu'en fait, bah, déjà, comme on dit en Afrique, c'est des grades en plus, tout le monde n'a pas la chance de vieillir. Donc, ça, déjà, ça, c'est cool. Et puis, c'est mes joies, c'est mes peines et c'est ce que tu traverses. Mais c'est marrant, en fait. C'est ton physique qui te renvoie à ce que tu as traversé, en fait. Moi, j'oublie, je regarde jamais dans le rétroviseur, en fait. J'ai traversé, j'ai avalé ma pilule, voire ma couleuvre, en fait, plutôt. Et en fait, j'y vais. Et t'avances. Et c'est vrai que... Bah ouais. Que je dormais pas beaucoup, mais encore une fois. Tu sais, au-delà d'être travaillé dans sa passion et dans un truc que tu kiffes, il y a l'engagement envers les gens. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Tu t'engages quand tu es manager. Tu t'engages. Tu tiens la vie des gens entre tes mains. C'est pas la fête au village, en fait. T'es pas supposé être plus star que ta star. T'es pas supposé être là et penser à ton intérêt en proms. C'est pas vrai, ça. Et malheureusement, ça se produit beaucoup trop souvent, en fait. Du coup, t'es complètement investi. T'es comme une âme damnée, en fait. Mais parce que t'as signé pour ça. Et donc, ouais, tu peux pas jouer avec la vie des gens comme ça, en fait. Il y a beaucoup de gens qui jouent dans le game avec la vie des gens. Et donc là, l'idée, ouais, effectivement, c'était de travailler beaucoup, beaucoup. Mais encore une fois, je me suis toujours estimée chanceuse. J'ai eu des traversées des déserts. Quand j'ai arrêté Influence Musique, j'ai eu une traversée du désert. C'est pas avec une chronique par mois sur Tropic FM, par semaine sur Tropic FM, que je pouvais vivre. J'ai eu des vrais moments où, d'un seul coup, l'univers m'a mis des coups de frein à main. J'étais dans mon salon en me disant « Waouh, je peux même pas payer mon loyer, quoi ». Et je vous raconterai après que c'est encore arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, en réalité. Et t'es là et tu sais pas quoi faire. Donc quand tu retrouves une activité extrêmement concrète, etc., hey, tu y vas, hein. Tu cherches pas à midi à 14h, tu roules.
Tu vas, et du coup, donc, ça se termine au bout de 3 ans avec Kerry. Les chroniques, par contre, continuent. Et là, tu fonces tout droit. Enfin, tu prends la voie du journalisme à fond ou t'es.
Ouais, je prends la voie du journalisme à fond, en fait, parce que j'aime ça. J'aime transmettre. J'aime cette idée de transmettre. Et puis finalement, ce truc-là me dit, mais waouh, c'est cool, en fait. Au lieu d'être concentré que sur un seul artiste ou une seule personne, en fait, tu peux en faire. Mettre en avant 100 personnes en une année. Tu vois ? Donc c'est encore de la transmission. Et puis j'aime ce truc-là, j'aime transmettre. Les concerts ne sont pas les payeurs, je déteste faire des leçons, je ne suis pas là pour faire des leçons en fait, mais j'aime envoyer de belles choses. Et puis moi j'ai conscience que derrière un micro ou face à une caméra, c'est une responsabilité, c'est une chance inouïe. C'est une chance inouïe. Je ne me bats jamais contre, je me bats pour. C'est Sœur Teresa qui disait, je ne me bats pas contre la guerre, je me bats pour la paix. Et c'est un peu un exemple pour moi en me disant, ouais, moi je me bats pour envoyer des bonnes vibes. Parce que là, si je regarde autour de moi, c'est le bordel, t'allumes les chaînes de télé, les infos, les trucs, waouh, c'est un truc de ouf. Et puis en plus, comme si la géopolitique, les guerres dans le monde ne suffisaient pas, les inégalités ne suffisaient pas, eh ben on s'y met tous, il y a Twitter, X maintenant, super, t'as Micheline qui pense que son avis est important, voilà, et donc tout le monde rajoute de la pollution à la pollution, c'est n'importe quoi, du bruit au bruit, et moi je me suis dit, c'était derrière un micro. Eh ben tu sais quoi, on voit des bonnes vibes, quitte à avoir l'air la meuf la plus gnangnan du monde, et on en parlera, tu vois ce que je veux dire, parce que la bienveillance, ça a longtemps été un truc qui était archi pas à la mode. Mais c'était une chance de mettre en avant des gens. Et quand tu es sur RFI, Radio France Internationale, tu parles au monde entier. C'est vertigineux. C'est vertigineux. C'est 40 millions d'auditeurs dans le monde. C'est une dinguerie. Et donc oui, en effet, j'apprends ce métier petit à petit. J'essaie de proposer pendant des années mes programmes télé. Mais des années. C'est important de vous raconter ça, vous allez manger des pop-corns. Vous avez des pop-corns ? Est-ce que vous avez des pop-corns ? Parce que là, on arrive à un moment qui est magnifique. Je crée un programme. Me volez pas le programme, je l'ai toujours pas mis grave, ok ? Personne va revendre mon idée. C'est filmé, de toute façon, Sarah.
C'est okay. Filmé, enregistré.
Voilà, merci.
Voilà.
Ça va faire office de dépôt, ça coûte moins cher qu'une limpie, en plus.
Et qu'une avocate en...
Ça coûte un bras, limpie, pour le coup. Ouais. Je crée plein de concepts de télé. Et je crée un concept qui s'appelle « Ni pour ni contre, bien au contraire ». Un peu en hommage à Coluche, qui avait une émission politique sur RTL il y a très longtemps, et il interviewait des politiques, et la conclusion, vous connaissez les politiques, et leur bonne foi, il concluait toujours « Bon, si j'ai bien compris tout ce que vous m'avez dit, vous n'êtes ni pour ni contre, bien au contraire. » Bon, en gros. Mais en même temps, je trouvais déjà à l'époque qu'en télé et en radio, c'était trop manichéen, c'était trop binaire. Enfin, je veux dire, à l'école, on nous a tous appris une thèse, une antithèse, une synthèse. Et c'est comme ça que t'es juste dans ta synthèse, en fait. Il y a du pour, il y a du contre. Là, je sais pas, ça fait une décennie qu'on te met un mec contre, un mec pour. Tout le monde s'embrouille. Ouais, non, et c'est n'importe quoi. Toi, t'entends du bruit. Tu sais même plus quoi penser à la fin. Alors qu'en réalité, la justesse, la nuance est de mise. La nuance est de mise pour être juste, en fait. Et donc, je crée un programme, discussion de bistrot avec des personnalités, où je leur demande de s'exprimer sur un sujet de société. Donc à l'époque, c'était les nuits debout, ou les maisons closes, les smartphones, tu vois. Et j'ai quand même eu, je me suis vraiment... j'ai été précautionneuse. J'ai pas pris des gens du rap. J'ai eu Claude Chirac, j'ai eu Catherine Laborde, j'ai eu Fabrice Eboué. J'ai eu que des personnalités en dehors du rap, parce que je sais déjà qu'on me mettait dans le game du rap, à juste titre, en fait. Et qu'en réalité, on est dans une société aujourd'hui où, en fait, des journalistes politiques n'ont aucun problème. C'est pas un problème pour eux de poser des questions à des rappeurs. peuvent d'ailleurs s'étonner que certains rappeurs connaissent Johnny Hallyday, tu vois. C'est, je trouve ça assez formidable. Mais dans l'autre sens, c'est pas possible. Tu vois ? Mais c'est très symbolique. C'est très symbolique de beaucoup de choses. Et je suis pas certaine que ça s'arrange aujourd'hui. Mais donc, du coup, je suis précautionneuse de ça. Et donc, je vais voir un petit peu tout le monde. Je vous raconte deux histoires qui sont formidables. Je vous dirai pas les chaînes, parce que ça sert à rien. Non.
Non.
Non, parce que je compte pas être à la retraite tout de suite, on sait jamais.
C'est ça.
Je vais pas me cramer avec les gens. Tu sais, genre,
en plus,
courageuse.
La retraite, c'est dans longtemps.
Courageuse, la jus. Non, mais ça sert à rien, en fait. En vrai, ça sert à rien, c'est insipide, c'est pas grave. Et en vrai, parfois, moi, j'ai de la tristesse pour ces gens-là. Et j'ai honte pour eux, en fait. Ça sert à rien de les... Mais bon, bref, je vais voir une grande chaîne, etc., à la direction d'antenne. J'ai rendez-vous pour mes ni pour ni contre. Évidemment, j'ai pitché le concept, hein, quand même, en mettant bien en avant que j'ai, dans mon concept, l'une des personnes qui a dirigé pendant 15 ans notre pays. Enfin, voilà. Et en fait... La personne ne me trouve pas quand j'arrive à la réception.
Attends, elle te quoi ?
Elle ne me trouve pas dans le cahier de rendez-vous.
Ah.
J'ai rendez-vous. Bah. J'arrive à l'heure, j'ai rendez-vous. La secrétaire ne me trouve pas exaspérée. En plus, tu vois, c'est un endroit... Oui, non, mais c'est bon, vous êtes sûr que vous avez rendez-vous ? Je dis, je vous dis que j'ai rendez-vous. Je vous montre les mails, etc. Ok. Et puis, elle finit par me trouver. Et en fait, elle me dit, ah, mais oui ! Vous êtes à la diversité ! Non. J'ai pas du tout rendez-vous à la diversité. Ah bah pourtant... C'est là où on vous a envoyé. J'étais face à la personne qui s'occupait de la diversité dans ce groupe et qui était extrêmement gênée, qui m'a dit « Ouais, on m'a envoyé ton dossier. » Je lui ai dit « Mais en quoi c'est de la diversité, en fait ? Je ne comprends pas, en fait, de quoi on parle. » En fait, là, moi, j'offre un programme qui est très franco-français, sociétal. Je ne travaille pas au Bondi Blog, tu vois ?
Ouais, méchante.
C'est de bonne guerre.
Hey,
c'est... Tu voulais dire que t'étais pas dans le communautarisme ? Non, pardon.
Voilà. Ouais. Non, mais façon de parler, mais tu vas le délire.
On rigole. Parce qu'il y a des gens peut-être qu'on connaît pas et qui connaissent pas notre niveau de. Nous, on fait des blagues. On est au République.
Bah, bien sûr. On essaie de faire honneur au compte de Boudarbala, wesh. Voilà. On vise la première partie. T'as vu, on s'est dit,
on s'est dit bientôt.
Voilà.
Il y a plus d'argent que dans le journalisme.
Tu te retrouves à la diversité. La personne t'a dit, je suis désolée, je m'en excuse. On va rien faire, en fait. Je te fais gagner du temps. Je suis aussi gênée que toi. Voilà. Je vais voir une autre chaîne qui est énormissime. Et c'était le 26 juillet 2016. Et je vais vous dire pourquoi je me souviens de cette date. Je fais mon rendez-vous, je vends mes ni pour ni contre, bien au contraire. Franchement, là, j'ai le DG de la boîte. Le mec, il est lourd de fou. Il adore, en plus, il me flatte. Il me dit « Ah, super, ton programme est magnifique, mais pour ma chaîne, c'est peut-être un peu trop élitiste. » Bien que vraiment, franchement... C'était pas élitiste, mais je peux comprendre, lui il produit plus de trucs d'entertainment plus léger. Et du coup, j'essaie quand même de me vendre, tu vois, en disant hey, ouais, mais regardez, j'ai quand même beaucoup de followers sur les réseaux. À l'époque, c'était Facebook, regardez quand même, machin, j'essaie de me bicrave, quoi. Et puis, il regarde, ah ouais, Facebook, machin, puis il me voit en photo avec Kerry James. Et là, sa tête change, littéralement. Le mec me tutoie, il me revoit. Et il me dit, vous connaissez Kerry James ? Donc là, je me rends compte qu'il n'a pas lu mon CV non plus avant le rendez-vous. Et je lui dis, ouais, j'ai été son manager, je continue avec la quête, formidable, super, cacacac. Et là, le mec, mais vraiment, il fait une gueule jusqu'à par terre. Il continue à scroller, mais je vois qu'en fait, il est dans ses pensées. Et là, vrai, hein, il me regarde, et c'est pour ça que je me souviens de la date. Il me regarde et il me dit, vous pensez quoi du prêtre qui a été égorgé ce matin ? Je le jure. Sur tout ce que j'ai plus cher au monde. Et moi, je sais pas, il s'attendait peut-être à ce que je suis ni pour ni contre, bien au contraire, enfin, tu vois. Enfin, c'est une dinguerie. Si tu me poses la question, c'est qu'il y a 1% de chance dans ta tête, en fait, frérot, pour que je te dise, il l'a pas volé. Et je comprends ton association d'idées entre Kerry James, qui est musulman, moi qui suis son manager, qui a été son manager, et le prêtre qui s'est fait égorger. Et je me démonte pas. Je me dis, oui. Et donc là, du coup, je pars en sujet géopolitique, déstabilisation de l'Orient par les États-Unis. Clac, 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 je sors ma science forte. Je retrouve les grâces du gars. Il est fasciné. Putain, un singe chavant. C'est comme ça que le gars me regarde. Non, mais c'est la vérité. Ça m'arrive encore aujourd'hui. Parce que les gens ne veulent pas voir. Parce qu'on va en parler de ça. Je suis pas véhémente. Encore une fois, je suis triste. pour ces gens-là. Néanmoins, on subit les conséquences de ça, d'où la nécessité d'être nombreux, nombreuses, blancs, noirs, riches, pauvres, mais en tout cas à être honnête intellectuellement. Il y a ce regroupement communautaire, et c'est le regroupement communautaire des gens qui sont honnêtes intellectuellement. C'est tout ce qui est important, en fait, aujourd'hui, tu vois. Et donc là, moi, je me retrouve devant le gars, je lui fais mon truc, il est fasciné. Parce que je lui donne un angle, au-delà de la géopolitique, je fais un étau aussi en disant, mais attendez, vous attendez à quoi, en fait, de la part des gens, en fait? Quant à Hortefeux, Morano, Guéant, et qu'en fait, c'est la fête au village. On insulte les musulmans, mais c'est indécent et ça s'est vraiment pas amélioré. Mais vous attendez à quoi, en fait, de la part, parfois comment vous avez de la chance, en fait, les gens ont de la chance d'avoir des gens qui sont aussi peaceful. Vous ne pouvez pas associer un mec qui a pété un câble, en fait, à toute une communauté, à des millions de personnes qui sont peace and love, malgré les insultes, etc., etc., etc. Bref. Et donc, je lui explique, en effet, que je suis contre et que c'est la vie d'un être humain. Voilà, elle ne peut pas être enlevée, que ce sont des faits isolés, et qu'il y a des gens qui pètent un câble, qui sont fous, et ce n'est pas une histoire de religion, etc. Et je pense que je lui formule suffisamment bien pour qu'il soit passionné, machin, super. Et là, il termine. On termine l'entretien, il me dit « Oh, je suis désolée Juliette, c'est vraiment fascinant, oh, vraiment, je me permets de te poser une dernière question. » Non mais vrai, hein. Et là, il me dit, meilleure phrase du monde, « Et en banlieue, en Afrique, ils en pensent quoi ?» Je le jure sur la tombe de mon père. Et là, vraiment, je me suis mordu les lèvres pour pas lui me dire à Levallois ou à Conakry. Je comprends pas ce que tu me racontes, en fait. Je vois pas. Tu sais, les associations d'idées.
En banlieue slash en Afrique, genre. C'est le...
Ouais, c'est la même chose. Bref, je suis repartie. Je suis rentrée chez une amie. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant une semaine. En me disant, en fait, je suis tuba. Et j'ai appris l'une des plus grandes leçons de ma vie, qui est encore valable aujourd'hui, malheureusement. C'est qu'en fait, il vaut mieux avoir un vrai ami en face qu'un faux ami derrière. Et qu'en réalité, on est battu souvent parce qu'on se retrouve face à des gens qui se font une illusion d'eux-mêmes. On se retrouve face à des gens qui sont en place, 50 piges, 30 piges, 40 piges, en place, qui font des quichetas, etc., et qui pensent être des Nelson Mandela, alors qu'en fait, ce sont des talibans. Et qu'en fait, il faudrait une psychothérapie, en fait, à ces gens-là, où il faudrait vraiment avoir la réalité en face, mais c'est bien trop tard. Et donc, en fait, comment tu veux ? Parfois, il est plus simple de discuter, à mon sens, et d'échanger, en étant d'accord de ne pas être d'accord avec un journaliste du Figaro, qu'avec un mec de gauche, qui se fait une illusion de lui-même. Et en fait, dès lors que... Et tu te rends compte qu'en fait, t'as beau montrer tout ce que tu veux. Quand on parle de « wesh wesh, la banlieue », bon déjà, comment on dit « wayo, ziva », ben non, on dit bonjour en fait, tu vois. Que je t'ai expliqué d'où soit que je viens de Fournant-Web et que je connais mieux le pinard que les gens de Bordeaux. Qu'est-ce que t'as pas compris en fait? Et je te l'ai dit gentiment, je t'ai rien dit, on est allé manger ensemble. Qu'est-ce que tu comprends pas? Tu t'attends à ce que je m'énerve et que je sois électrique? Jamais je te donne ça. Et en fait, tu te dis, mais en fait, je vais être face à des gens, j'ai beau leur montrer, leur amener un président de la République juste pour un pilote d'émission. Quoi que je dise, quoi que je fasse, avec mon plus beau sourire, mes propos arrondis, ma bienveillance, les 12 pas vers toi que je fais par empathie, par bienveillance, pour essayer de me mettre à ta place. Malgré tout ça, tu comprendras toujours pas parce que toi, t'es un ignorant, en fait. Et en fait, je me suis dit, waouh. On est dans la merde. Parce qu'on a beau prouver, démontrer, en fait, tu ne passes pas. C'est même plus une histoire de plafond de verre, évidemment. Et on le sait, celui qui pète le plafond de verre, si tu pètes le plafond de verre, j'aime beaucoup cette expression, si tu réussis, ne t'attends pas à péter le plafond de verre sans blessure. T'es blessé, tu te fais des vrais bobos. Et moi, j'en ai un tas de bobos. Mais dans ces bobos-là, le fait de me rendre compte qu'en fait, je patauge dans la semoule et qu'en fait, mes soi-disant alliés ou les soi-disant personnes qui pourraient comprendre qu'en fait aujourd'hui on est dans une société hyper mélangée, que c'est plus une... particulièrement en France, on n'est pas dans le communautarisme, tu vois ce que je veux dire en réalité. Et ça le devient, c'est ça qui est grave en fait. On a grandi avec plein de trucs, et que tu sois d'origine africaine, du Maghreb ou subsaharienne, peu importe, ou asiatique, t'as grandi en banlieue, mais t'es français, on est français. Quand moi les gens, je vois et que j'interviewe Dahuzi, par exemple, Dahuzi, rappeur, etc., et que les gens s'étonnent, qu'ils connaissent Hélène Ségara, Garou, ou Céline Dion, je dis, mais vous êtes des fous, en fait. On est français, en fait. Aussi Dahuzi qu'il puisse être. Qui chante le bossu de Notre-Dame. Bah ouais, elle a dit... Bon, alors, il l'assume, contrairement à plein de gens, en fait. Tu vois, mais en vrai, c'est nous, c'est notre culture. Quand je vois des journalistes qui demandent à Nino, « Oh, vous connaissez Johnny Hallyday ?» Et que Nino dit, « Bah ouais, allumez le feu. Waouh, vous avez les refs ?» Et là, mais tu dis, mais attends, Nino, je comprends pas.
Justement, j'ai lu, entendu dans une de tes interviews que tu disais qu'en fait, quand tu as été manager de Kerry, tu t'as détesté voir comment les rappeurs étaient interviewés. C'est vrai que ça, c'est un sujet.
Mais c'est magnifique.
Et est-ce que c'est aussi du ce qui caviar. T'a donné envie? Alors, j'ai
c'est
bien
complètement
compris
ce qui m'a donné envie.
Aussi que...
Et en fait, je me suis rendu compte que, ok, je proposais des sujets sociétaux, sociétal, c'est des chevals, des chevaux, je sais plus. Sociétaux. Bon, bah, t'as capté, cousine, ce que je voulais dire. Mais en fait, on m'a remballé, fin, on m'a dit, toi, fais du rap. Fais une émission rap. Moi, j'ai 40 piges à un moment donné, à l'époque, enfin un peu moins. Et j'ai dit, mais non, j'ai pas envie, moi. J'ai pas envie de parler beatmaker, de... Je sais ce qu'est une structure, je suis directrice artistique, je sais faire un son, je sais quand c'est bien écrit, je sais quelle structure est cool, que ça peut être un banger, pas. Mais c'est pas ça que je veux faire aujourd'hui, moi. Moi, je veux faire un truc universel et que ça vienne de gens comme nous, pour tout le monde, par nous, pour tous. C'est pour ça, moi, je suis pas dans le foubou. For us, by us. Je suis pas dans par nous, pour nous. Je suis par nous, pour tout le monde. Ouais, super, en fait. Tu vois, c'est ça le truc. On me refuse et on me dit, va dans le rap. Je crée un programme sur lequel je vais passer rapidement qui s'appelle Le Grand Paris, où ça s'est mal passé avec les personnes avec qui j'ai travaillé. Programme sur Internet, tout ça, machin. Ça a été un truc, une épreuve aussi, encore une épreuve. Et puis finalement, j'étais donc sur RFI, toujours. Je remplaçais souvent Claudie Sciarre, qui est quand même l'un des masters de la radio. Le mec, c'est un tueur à gages. Il est extraordinaire. J'ai rarement vu un journaliste, un animateur radio aussi fort que Claudie et éloquent. Donc je le remplace, c'est mon grand frère. Et puis là, effectivement, je pensais à ce concept de légende urbaine. Et je ne vais pas te mentir, je suis sur le service public, on va parler français. T'as Macron qui râle sur l'audiovisuel public, qui dit qu'il n'y a pas assez de diversité, de mixité, de jeunesse, et qu'il faut développer le digital. Et là, je me dis, tiens, tiens, tiens. Non pas que je sois jeune, mais bon, le rap, c'est jeune. Diversité, mixité, je coche les cases, on en parle. Avec la direction de RFI. Et ils me disent, ok, tente légende urbaine. Mais ça part de ce truc-là. En me disant, mais en fait, on est toujours en train de râler. Ok, ok, moi, je ne veux pas faire une émission de rap. Je suis Michel Drucker du Bendo et je me souhaite la même carrière que Michou. Ok, 40 piges. Et que l'idée, c'était de se dire, mais attends, moi, ça fait 20 ans que je vois des gens extraordinaires qui ont des choses à dire. Parce que certains sont sur les problématiques de l'écologie depuis des années. Quand je vois que Kalash Criminel, il a des notions de géopolitique qui sont incroyables, mais qui en même temps a vraiment une vocation. Il a envie de sauver les animaux dans le monde, il veut préserver les animaux dans le monde, etc. Et je me rends compte quand même, parce qu'il faut toujours avoir de la bienveillance envers les personnes qui ne connaissent pas le rap. Parce que quand tu as un mec comme Kalash Criminel devant toi et que tu ne connais pas le rap, tu te dis pas tout de suite que le mec il veut sauver les petits oiseaux dans le monde. C'est pas le premier truc qui te vient à l'esprit. Et il faut comprendre ça aussi. Nous, on a des codes, on connaît, machin, avec des expressions, le truc, ta ta ta, sauvage, ok. Et on aime bien, on sait que c'est un jeu, c'est un exercice. Mais il faut aussi parfois se mettre à la place. Tout le monde n'est pas contre nous. Il y a juste des gens qui n'ont pas les codes ni les clés. Moi, je suis allé à l'opéra la première fois, j'étais là genre, waouh, 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 ok, Madame Butterfly. Et donc, au bout de 20 minutes, j'ai dit, ça dure encore longtemps. 3h30. Je dis à mon pote, il y a une pause. Et en fait, à la pause, je ne voulais plus partir. Mais parce que lui m'a expliqué. Il me racontait des choses, etc. Donc, il y a des univers qui s'apprennent, qui s'expliquent, qui se découvrent. Et donc, il y a des gens qui ont aussi envie de savoir, qui ont aussi envie de savoir ce que leurs enfants écoutent. Et leurs enfants sont à ma place quand moi je disais à mon père, moi je revois mon père qui me hurlait dessus. comment ça? T'écoutes Job? NTM? Et ma mère, elle disait, mais c'est de son âge. Ah ouais? Tu sais ce que ça veut dire, NTM? J'ai dit, le Nord, ça veut dire nique ta mère. Tu crois que c'est de la musique, ça? Ça, t'imagines? En province, à Fourlanweb, hein, tout ça, faut contextualiser Fourlanweb. Et j'avais pas le vocabulaire pour me défendre, en fait. Et t'as Joey Star qui gueulait sur les plateaux télé. Moi, je comprends que mon père, il était complètement flippé, en fait. En vrai, maintenant que j'ai 45 ans, je comprends. À l'époque, je comprenais pas. J'étais, ah, t'es relou. Mais en fait, du coup, je me mets assez à la place aussi de ses parents et de ses gens, en disant, bon, alors attention, il est hors de question de se justifier. Hein, et il est hors de question de faire les singes savants. Parce qu'en réalité, c'est l'artiste qui m'avait dit ça un jour. Il a dit, non, mais c'est plus à nous de nous justifier. Ça y est, c'est fini tout ça. Nino, deux Stades de France en moins de 24 heures. Merci, au revoir. Ok. Booba, Stade de France. Ok, merci, au revoir. C'est aux gens qui ont toujours une aversion pour nous et qui ne réussissent toujours pas à nous comprendre et qui nous prennent toujours pour des analphabètes. C'est à eux de se justifier aujourd'hui. C'est plus du tout à nous, en fait. Et ça, c'est cool. On a réussi ça. Mais la réalité, c'est qu'il faut trouver un juste milieu. Et en fait, pour pouvoir mettre en lumière des histoires, des vrais trucs. Moi, j'ai jamais cherché le buzz. Encore une fois. Je pense qu'on est tellement pollués. Et c'est pour ça que ça a été difficile aussi. Parce que j'ai appris à devenir journaliste. Tu vois ce que je veux dire? Alors les gens, les journalistes me disaient, ah ouais, t'es journaliste, t'es une carte de presse.
T'as fait quelle école?
Non, j'ai pas, j'ai pas de carte de presse. Elle n'est pas journaliste, alors. Quelqu'un a déjà eu ça. Hey, c'est magique. Maintenant, j'ai une carte de presse pour des raisons fiscales. Très intéressante.
Pour les raisons comptables.
Voilà, pour des raisons comptables. Tu vois, mais du coup, tu vois, la bienveillance, encore une fois, au début, j'avais des gens qui m'envoyaient dans les légendes urbaines. Eh, super, c'est un salon de massage. Il y a des finitions ou quoi, à la fin? Hardcore. Ou les journalistes qui me disaient, eh, super. Paix, amour, lumière sur vous, one love. Il est beau, le journalisme. Et là, tu dis, bah ouais, en fait, responsabilité. Fais ce que tu veux. Je pense que c'est éclaté, que je me prends pour Marley One Love à la fin. Moi, je parle. Nathalie, je parle sous couvert de tes chiffres. 481 millions de foyers touchés par semaine. Ok ? France 24. C'est ça ? Alors, c'est quoi ? C'est plus de 500 millions. Voilà ! Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. 500 millions. Moi, des fois, je vais dans un hôtel, ok, je suis à la réception.
Prévenu, t'as dit les
je
chiffres,
me vois en double. Tu vois, ouais, non, mais les chiffres, c'est une dinguerie. T'es dans les avions, t'es dans les aéroports. On est dans tous les pays du monde. C'est un truc de fou. Et moi, vous pensez qu'en fait, j'ai l'ego suffisant pour venir déjà me la raconter, plus tard que la star que j'accueille, raconter mon avis, faire des polémiques, etc. Non. Moi, je veux montrer le beau en les gens. Quitte à ce que ça prenne plus de temps. Tout le monde a quelque chose de beau. Même la pire personne a quelque chose de beau. Et en fait, l'idée, c'est de ne pas m'occuper des 20% de cadavres dans le placard des gens. S'ils en sont arrivés là, s'ils ont une carrière comme ça, s'ils font des milliards de streams, etc., c'est parce qu'en fait, ils ont aussi une histoire. Et cette histoire-là, elle n'est pas assez racontée. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont aucun problème à dire « voilà mes faiblesses, voilà mes forces ». Mais en fait, on ne leur donne pas l'opportunité de le faire. Moi, j'ai trop vu des interviews de Kerry où en fait, on interviewait un imam et pas un rappeur. Non mais à quelle heure en fait? On vient pour défendre un album et vous êtes là en train de lui parler de religion. Mais à quelle heure on fait ça en fait? Il n'y a qu'à nous qu'on fait ça. Et en fait, je ne crois pas en le fait qu'on puisse être respecté à l'extérieur si on ne se respecte pas entre nous. Fact, tu vois? Et donc il faut aussi qu'on s'envoie de l'amour et du respect entre nous pour qu'on puisse peut-être être un tout petit peu plus respecté. Et encore une fois, ça ne s'est pas fait sans mal. Cette histoire, jusqu'à aujourd'hui, c'est une bataille. À plein de niveaux. Il n'y a rien de facile. Mais dès lors que j'ai le sentiment en fait, d'être utile et de contribuer à l'intérêt général, moi, je suis contente, je suis en paix.
J'ai envie de conclure là-dessus. Mais, en vrai, j'ai encore trop de questions. La question que je voulais te poser, je sais que tu voulais parler de Team One Solidaire, une association dont tu es marraine. Et comme je ne sais pas si vous allez poser la question... Je la pose. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que
rapidement,
c'est?
Rapidement, en fait, je suis marraine de plusieurs associations et j'aime les mettre en avant et en parler. Allez vous intéresser au travail de Team One Solidaire qui a été monté par Philippe Spanghero, qui est un ancien rugbyman qui vient d'une grande famille du rugby et qui, lui, travaille. Il devait être là pour en parler un petit peu parce qu'encore une fois, la notoriété, à mon sens, est un outil et pas du tout une fin en soi. Et donc, cet outil qui permet d'avoir un impact aussi puissant doit servir à des causes plus grandes, notamment Timoine Solidaire, ils devaient être là aujourd'hui. Allez checker leur travail. Eux, en fait, parlent de responsabilité personnelle. C'est assez fou. C'est l'histoire du colibri, en fait. Vous connaissez tous l'histoire du colibri. Je ne vais pas vous la faire une 14e fois-ci. Qui connaît pas ? Non, alors attends, non, mais je vois. Et vous savez qu'en plus, je vois rien, en fait, en vrai, là. Non,
on vous voit là, pas là, du tout. Okay. On fait semblant.
Qui connaît Colibri fait ouais. Ouais. Qui connaît pas Colibri
ouais.
Oh, ouais. Vous êtes relou, c'est 50-50. Ok, je la fais vite. Ok. J'ai une team qui s'appelle la team Colibri. Parce qu'en fait, très vite, particulièrement en Afrique, des gamins et tout se sont mis à faire des fan clubs de Juliette Chiévet. Sauf qu'en fait, je suis pas chanteuse. Donc, c'est hyper flatteur. Mais en réalité, encore une fois, à mon sens, c'est insipide. Donc, je me suis dit, tiens, au lieu de faire vos pages fans, là, on va faire une team Colibri. Hein, à l'image de l'histoire de Pierre Rabhi. Pierre Rabhi racontait en fait que c'était le feu dans la jungle, je sais pas où, mais en fait t'as un colibri qui est donc le plus petit oiseau au monde, qui se retrouve dans cette jungle avec des lions, des tigres, des éléphants, etc. Et comme le feu prend à grande vitesse, tout le monde se barre au bord de la rive pour se sauver du feu. Seul le colibri prend des toutes petites gouttes d'eau, il fait des allers-retours entre la mer et la jungle pour essayer d'éteindre le feu. Les autres restent au bord de la, sur la plage. Et puis évidemment, au bout de 200 allers-retours, le colibri se brûle les ailes, il s'épuise, il réussit quand même à voler tant bien que mal au bord de la rive, il est en train d'agoniser, il va mourir, et là le lion le regarde et lui dit « Mais enfin petit colibri, toi tu penses que t'allais éteindre le feu dans la jungle tout seul ?» Et dans son dernier souffle, le colibri lui répond « Je sais que je n'allais pas éteindre le feu dans la jungle seul, mais moi j'ai fait ma part. » Ok ? Et en fait, tout est une histoire de responsabilité personnelle, et c'est pour ça que je me suis dit « Ok ». Peu importe, on attend toujours d'avoir beaucoup, d'être riche, d'être OP, de ne plus être triste, d'être en forme, de machin pour faire quelque chose. En réalité, c'est faux. C'est très facile de dire « Eh, le gouvernement, oh, on se les pris pour des cons, ah, non, non, ok, mais nous on fait quoi en fait ?» J'ai des théories, des petites théories dans ma tête que je mets en pratique, et en fait ces théories fonctionnent parce que c'est pour ça que ça devient vraiment, c'est même plus des théories, c'est des affirmations. C'est que moi je considère que si on passait 20 minutes de notre temps par jour dédié d'une façon complètement altruiste à quelqu'un d'autre, à l'intérêt de quelqu'un d'autre, notre voisin, notre voisine, une cause, un truc, machin, on changerait énormément de choses. 20 minutes, tu vas faire les courses pour une grand-mère. Peu importe, tu t'occupes d'humanitaire. Il y a 1000 façons de faire. 20 minutes dans une journée. Vous vous rendez compte ? On est 8 milliards. 20 minutes pour quelqu'un d'autre. Sauf qu'on ne le fait pas, en fait. C'est trop facile. On est là, ouais, non, mais là, c'est parce qu'on est dirigé par... Ouais, bah non, en fait. En vrai, oui, mais en réalité... Arrêtons, on a voulu nous faire croire qu'on n'avait pas de pouvoir, et c'est encore une fois cette histoire-là, c'est le Dalai Lama, bon, vu la dinguerie qu'il a fait dernièrement, c'est un peu foireux de le citer, mais enfin c'est quand même lui qui l'a dit, ce truc-là. Et je dis toujours, si vous pensez être trop petit pour changer les choses, essayez donc de dormir avec un moustique et vous verrez lequel des deux empêchera l'autre de dormir, ok ? Soyez le moustique ou le colibri. Et donc Timoine Solidaire, effectivement, je suis marraine. Eux vont sensibiliser les jeunes à travers le sport, la musique, la culture, mais vont sensibiliser les jeunes en leur disant « C'est pas parce que t'as 14 ans et que t'es un peu perdu et que tu sais pas encore, etc., etc., que tu ne peux pas être responsable pour essayer d'améliorer la vie d'une façon générale, la tienne et celle des autres. » Ça, c'est de la sensibilisation. Puis après, je suis marraine de Grandissons Ensemble. Je fais un coucou à mon ami Julien Paris. Et ouais, j'essaie en tout cas... d'utiliser cette visibilité pour pouvoir mettre en avant des gens qui font des choses bien.
Eh ben merci pour
cette masterclass. Cool, merci à toi, Sarah.